qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Louis Lacroix.
Il est midi 49 minutes. Jocelyn Coulon s'installe pour les nouvelles internationales. Bonjour, Jocelyn.
Bonjour, Louis.
Et on va commencer avec le régime syrien qui va protéger les Kurdes.
Alors, les Kurdes syriens étaient des alliés, ils sont des alliés, ouais, des Américains, des Occidentaux, dans la lutte contre l'État islamique en particulier. Mmh. Mais ce sont aussi les ennemis des Turcs. Et la semaine dernière, le président américain a décidé de se retirer de la Syrie, ouais, ce qui affaiblissait les Kurdes, mm-hmm, comme d'habitude. Et donc là, les Kurdes ont appelé au secours le régime du président Al-Assad, qui est au banc de la communauté internationale. Et le régime, évidemment, tout heureux, a dit qu'il assurerait la protection des Kurdes face aux Turcs, qui ont averti la semaine dernière qu'ils ne toléreraient pas que les Kurdes aient une zone pratiquement indépendante dans, ouais, le nord de la Syrie. Vous voyez un peu la complexité de la, ouais, chose. Alors, ils se sont trouvés des protecteurs que personne n'aime, le régime syrien, mais en même temps se déroule la normalisation du régime syrien, puisque, mmh, là, les pays arabes qui appuyaient les rebelles contre Assad ont décidé de normaliser leurs relations diplomatiques. Donc, on voit que...
C'est comme si on redonnait une certaine légitimité
À Assad.
À Assad.
Puisque la guerre est terminée, ouais, en Syrie. Ouais. Le régime a gagné. Les Occidentaux ont perdu. Les Russes et les Iraniens qui sont avec le régime syrien, mmh, ont aussi gagné. Donc, tout le monde est en train de réaligner là, ce grand jeu diplomatique au Proche-Orient pour rétablir le gouvernement Assad et, ouais, puis lui faire confiance en autant qu'on puisse faire confiance à un régime semblable.
Bon, alors c'est drôle quand même, ça a été une parenthèse finalement, mais le régime Assad s'en tire quand même relativement bien.
Ben, alors 8 ans de guerre pour rien, de, ouais, destruction, 400 000 morts.
Exactement. Bon, remaniement en Arabie Saoudite.
On s'attendait peut-être que le prince Ben Salman, qui est en tout cas responsable de la mort de Khashoggi, soit sans doute affaibli en Arabie Saoudite, compte tenu de l'indignation internationale. Eh bien, ouais, non. Il y a eu un remaniement ministériel hier. Et puis, là encore, on a fait un jeu de chaises musicales. Le grand perdant, c'est le ministre des Affaires étrangères, qui est rétrogradé. Mais Ben Salman, lui, voit son pouvoir renforcé par de nouveaux ministres, mm-hmm, mais aussi par des gouverneurs, par des administrateurs un peu partout en Arabie Saoudite qui viennent consolider son pouvoir. Il faut dire que le roi Salman est dans un état physique lamentable. On pense qu'il fonctionne à peu près 2-3 heures par jour,
ouais,
ce qui fait que le prince héritier en prend large. Mmh. Maintenant, attention, le 3 janvier, la Chambre des représentants aux États-Unis devient démocrate et elle est déterminée à imposer des sanctions économiques et militaires envers l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un prochain clash avec le président Trump là-dessus.
Ouais. Trump, pendant ce temps, ben, menace de fermer carrément la frontière avec le Mexique s'il n'a pas ce qu'il veut, là.
Ben, c'est un nouveau tweet du président.
Ce matin, très tôt, là.
Oui, ouais. Voilà. Tous les jours, il y en a un.
Faut lui donner ça quand même, il se lève de bonne heure.
Il se lève de bonne heure et puis il est constant dans sa détermination d'obtenir cet argent pour construire le mur entre le Mexique et les États-Unis. Alors, il dit aux démocrates, si j'ai pas ce que je veux, je ferme la frontière. Et là, il y avait d'autres tweets aussi qui étaient liés au Mexique en disant que, de toute façon, on perd de l'argent avec ces gens-là,
ouais,
75 milliards de dollars avec l'accord de libre-échange. Il oublie qu'il y a un accord qui a été signé, qui n'a pas été encore ratifié.
Mm-hmm.
Alors, on vit toujours avec l'ancien accord de libre-échange. Ouais. Mais même s'ils ferment la frontière, l'accord va se poursuivre.
Bien sûr.
Alors, donc, c'est un peu une illusion. Mais il parle à sa base. Parce que ça a l'air de rien, mais 2019, on rentre quasiment en année préélectorale, hein,
ouais,
parce qu'on est à 2 ans de la présidentielle.
Mm-hmm.
Et donc, Trump va vouloir fouetter l'ardeur de ses électeurs.
Mais c'est quand même assez paradoxal, parce qu'il avait dit que ce seraient les Mexicains qui paieraient pour le fameux mur.
C'était le slogan de la campagne,
voilà.
Les Mexicains allaient payer.
Puis il parlait, il demandait beaucoup plus d'argent. Là, ce que j'ai compris en lisant hier un peu sur les quotidiens américains, entre,
oui,
autres, là,
Il demandait 5 milliards.
Il demandait 5 milliards, mais là, il était peut-être prêt à accepter 2,5 milliards.
Et 2,5 milliards pour construire quoi exactement? Parce voilà. que le mur, là, vous savez que c'est quand même assez long. Hein?
Ben oui.
Ça part de la Californie, puis ça va jusqu'au golfe des Caraïbes.
Ouais.
Et donc, c'est énorme. Donc, ce 2,5 milliards, on se demande exactement à quoi il va servir.
Voilà. Alors, c'est un peu étrange, mais je pense que c'est juste pour faire plaisir, comme tu dis, à sa base.
Voilà.
Restons avec les migrants, mais changeons de continent.
Oui.
En Espagne, un bateau accoste avec plus de 300 migrants à bord.
Et voilà. Alors, cette tragédie continue. Ça fait des années que ça dure. Ces migrants viennent essentiellement d'Afrique subsaharienne.
Oui.
Donc, tous les pays de Congo, Nigeria, Sénégal, Burkina Faso, Soudan. On est rendu à des centaines de milliers de migrants depuis plusieurs années qui essaient de traverser la Méditerranée.
Mais généralement, ils s'en allaient davantage vers l'Italie.
Oui, l'Italie, la Grèce, le sud de la France quand ils pouvaient se rendre là. Et là, c'est devenu l'Espagne qui est la voie d'entrée. On parle de 50 000 migrants depuis le début de l'année. Ça, c'est juste pour l'Espagne. Il y a encore des voies d'entrée ailleurs. Et c'est un drame parce qu'il y en a qui meurent dans ces traversées-là.
Ouais.
C'est extrêmement difficile. Et j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec un ex-journaliste français qui s'appelle Stephen Smith, qui vient d'écrire un livre qui s'intitule « La ruée vers l'Europe ». La prochaine vague migratoire, c'est celle des Africains qui arrivent en Europe. Elle a déjà commencé depuis plusieurs années, mais lui, il voit quelque chose de plus énorme encore. On parlerait ici de dizaines de millions d'Africains sur 30 ans. Sur 30 ans,
quand même,
évidemment.
Ouais.
Mais ça dit des choses sur l'état de l'Afrique subsaharienne. Et on n'a pas fini d'en voir des nouvelles comme ça à tous les jours.
Ouais.
Ça fait plusieurs années que ça dure, mais ça va continuer.
Bon, alors, mais quand même, la crise des migrants, c'est international. Il n'y a pas juste l'Afrique. Bon, nous, ici, c'est davantage l'Amérique du Sud.
L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale.
C'est les pays pauvres qui cherchent
De
meilleures conditions, exactement.
De meilleures conditions, c'est essentiellement ça.
Voilà, tout à fait. Merci, Jocelyn. On se reparle lundi. Lundi, t'es là, oui.
Je pense pas. Je pense que...
OK. Ben moi, je vais être
Loïc,
là, en tout cas.
Loïc.
Ah, Loïc, t'en sais, ça.
Oui.
On s'arrête, histoire d'aller aux nouvelles. On revient tout de suite après avec la suite. Oui.